Bien, bonsoir. Donc, les millionnaires de la chance sont en fait, ce sont plus précisément, les millionnaires du loto, les gagnants du loto, de gros gagnants qui ont gagné des sommes importantes. Et pourquoi est-ce que nous avons fait ce travail? Parce que vous savez que nous travaillons maintenant, aujourd'hui, ça fait à peu près 23 ans. Sur la haute société, la grande bourgeoisie, en particulier sur les familles héritières, sur les lignées, les dynasties industrielles, financières, disposant de beaucoup de patrimoine et occupant des positions dominantes dans la société. Alors, quel est le rapport avec les gagnants du loto? Le rapport, il est... pas trop près. Avec les gagnants du loto, c'est que ces gagnants du loto ne sont pas des héritiers et qu'ils se trouvent dans une situation tout à fait expérimentale, d'une certaine façon, on peut dire expérimentale, dans la mesure où les gains importants qu'ils font changent d'un instant à l'autre, au moment où ils découvrent qu'ils ont gagné, c'est instantané. Changent un paramètre de leur existence, la richesse économique. Tous les autres paramètres restent identiques, évidemment. Et nous situons dans la lignée, pour parler de lignée encore, de la lignée de Pierre Bourdieu, et les notions d'habitus, de champ, de conditions de la pratique, sont des notions que nous utilisons pour analyser la grande bourgeoisie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas de ces gagnants du loto? C'est qu'il y a un bouleversement radical qui ne va pas de soi de vivre. Ce bouleversement radical, c'est le fait que la richesse économique a soudain changé, que les conditions objectives d'existence soudain ont changé, que ce qui définit la classe objectivement, les paramètres, il y a un paramètre fondamental qui a changé et se retrouve à la tête d'un patrimoine. Donc, par exemple, très souvent, c'est suffisant pour qu'ils arrêtent de travailler, ce qui est quand même... un paramètre de définition de la classe assez important, ils peuvent vivre du produit de leur patrimoine. Donc, ils se retrouvent donc dans une autre situation que celle qui était la leur objectivement, mais subjectivement, s'ils sont dockers, comme ça, nous avons une famille de dockers, s'ils sont ouvriers menuisiers, c'est un autre cas, eh bien, ils restent encore ouvrier menuisier et docker, simplement, ils sont riches. Et un ouvrier menuisier riche, c'est quelque chose d'aberrant, qui n'existe pas, sauf parmi les grands gagnants du loto. Alors, ces grands gagnants du loto, nous les avons choisis de façon un peu obligée, parce que nous ne pouvions faire ce travail qu'en collaboration avec la Française des Jeux. Pourquoi? Parce que les grands gagnants du loto, ils sont pratiquement impossibles à retrouver. Ils cultivent un certain secret au moment de leur gain, donc ce serait du tout évident de les retrouver. Il fallait que la Française des Jeux, qui, elle, essaye de conserver des contacts avec eux, nous introduise auprès d'eux. Et ceux que la Française des Jeux continue, parmi ses gagnants, continue à maintenir dans ses relations, ce sont les gagnants qui se situent au-dessus d'un million d'euros. Donc voilà, notre population est prédéfinie, ce sont les grands gagnants, au sens de la Française des Jeux, ayant gagné plus d'un million d'euros. C'est un seuil qui est non seulement un seuil comme ça pour définir une population, mais c'est aussi parce que la Française des Jeux ouvre à ses grands gagnants un service gagnant qui est une sorte de cellule psychologique du type de celle que l'on met en place après une catastrophe, un déraillement ferroviaire ou un raz-de-marée, c'est une cellule, une sorte de cellule psychologique permanente qui s'occupe des gagnants et qui essaye justement, parce que les gens de la Française des Jeux se sont bien rendus compte que ce n'était pas nécessairement facile pour eux, qui s'occupe de les suivre, de les aider, éventuellement de les empêcher de faire des bêtises, de se mettre dans de mauvaises positions. On reviendra là-dessus par la suite. Le changement en question est encore compliqué par le fait que le grand gagnant, il n'a pas seulement à se reconstruire en raison même du fait qu'il a gagné, qu'il maintenant il est économiquement riche. Il y a aussi le regard des autres sur lui qui va changer. Et ça, c'est un élément qui conduit à une difficulté majeure de ces familles, celle de conserver soit le secret, soit de dire que l'on a gagné, mais à qui? Et si on commence à le dire, est-ce que ça ne va pas trop se savoir? Il y a là un problème aussi très, très important pour eux à résoudre. Et voilà pour la raison de notre travail dans ce groupe et les considérations générales qui expliquent que cette population pouvait nous intéresser. Je vais continuer en commençant de vous parler des groupes de parole organisés par la Française des Jeux. Comment est-ce que nous avons pris contact avec ces gagnants? Nous avons pris contact avec eux d'abord par l'intermédiaire de ces groupes de parole qui sont des réunions régulières proposées, qui ne sont pas du tout obligatoires, aux grands gagnants de façon à ce qu'ils puissent s'exprimer, poser leurs problèmes, ceci avec le soutien d'une psychologue qui est là et qui les écoute, qui anime un peu les débats entre eux, anime la conversation, prend des notes et fait une synthèse. Ces groupes de parole peuvent concerner, par exemple, ce que je viens de dire il y a un instant, le problème du secret. Est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas, comment on se débrouille avec ça? Ces groupes de parole peuvent concerner la famille, les rapports intrafamiliaux. Par exemple, est-ce qu'on en parle aux enfants? Comment on fait pour les enfants? Les enfants vont se rendre compte que quelque chose a changé dans la maison. Comment on se débrouille pour que leur insertion dans leur milieu scolaire avec les copains ne soit pas bouleversée par ça? Donc il y a ce type de discussion, et c'était un lieu où nous, avec Monique, nous pouvions suivre ces débats, ces discussions, et entrer en contact. Il y avait des pauses café, etc. Bon, on allait déjeuner ensemble au restaurant à l'arrêt de midi, à la pause de midi, ce qui nous permettait d'entrer en contact et de lier des relations avec ces gagnants, de prendre des rendez-vous pour ensuite les voir si possible chez eux, ce qui était bien sûr intéressant, de voir dans quel cadre de vie ils vivaient, comment ils l'avaient réaménagé ou pas, etc. De les voir chez eux pour de longs entretiens. Et nous avons eu souvent un travail, comme chez les grands bourgeois d'ailleurs, qui a été à la fois de mener des entretiens, de participer à des activités avec ces grands gagnants, d'aller chez eux et de passer du temps avec eux de façon bien nous pénétrer de leur mode de vie, de leurs difficultés, de ce qui pouvait nous intéresser dans cette réorganisation de la vie quotidienne. Parmi les problèmes, il y avait aussi des problèmes qui étaient plutôt des problèmes de type pratique et juridique, Par exemple, il y avait parfois des groupes de parole autour de la succession des héritages, comment est-ce qu'on pouvait transmettre à ses enfants un patrimoine. Mais ça, il y avait une autre forme d'intervention de la Française des Jeux qui était de convoquer toujours sous la condition que les gens soient d'accord, mais ça, ce n'était pas obligatoire. D'inviter donc plutôt les grands gagnants à Vitrolles, là où il y a le centre de calcul et le centre de formation interne de la Française des Jeux, à Vitrolles, donc, pour des stages de 2-3 jours autour de thèmes de cet ordre-là, justement, des problèmes sur la finance, la fiscalité, des questions d'argent, le droit de succession aussi, toutes les questions d'argent qui sont étrangères aux familles les plus populaires, les plus démunies, parce que se poser des problèmes de succession lorsqu'on n'a pas grand-chose, c'est quelque peu superflu, parce que les placements, bon, à part la caisse d'épargne, c'est pas sorcier, il n'y a pas grand-chose d'autre, compte tenu de ce dont on peut disposer comme économie. Donc, il y a tout un monde qui est étranger à ces familles, et la Française des Jeux se préoccupait de les introduire auprès de ces familles. Par rapport à notre travail sur la haute bourgeoisie, il était intéressant de voir dans ces réunions combien les grands gagnants de conditions modestes étaient vraiment désarmés par rapport à ce qui leur arrivait. Ils étaient vraiment désarmés parce qu'il y avait des implications matérielles qu'ils ne maîtrisaient pas. Que faire de cette masse d'argent? Parce que si la base était 1 million, ça s'est allé jusqu'à 75 millions dans l'échantillon que nous avons eu. Donc des familles qui gagnent 75 millions, 50, 20 millions d'euros, bien entendu, ça change les conditions de vie. Pour vous donner un chiffre que j'avais là, je me souviens suffisamment pour le dire approximativement, un de ces grands gagnants avait gagné 58 millions d'euros. Son salaire était de 2000 euros par mois, et c'était déjà un salaire relativement confortable. Seulement, ces 58 millions d'euros par mois, il ne savait pas quoi en faire, il les avait placés, parce que, bon, il ne voulait pas que ça sache, etc. Il les avait placés en banque, très discrètement, tranquillement, sans risque, et ça lui rapportait 200 000 euros par mois. Donc, vous voyez que c'est pas évident de vivre cette situation qui, certes, est confortable sous certains rapports, mais qui remet en cause, il avait derrière lui 15 années de travail. Pendant 15 ans, il a gagné 2000 euros par mois et moins au début. Il se retrouve avec 200 000 euros sans rien faire. Ça pose des questions par rapport à la société, par rapport au travail, des questions qui sont une remise en cause de ce qu'on a été, de ce qu'on continue à être, et qui pose des questions par rapport à la famille, etc. Ce qui était l'une des caractéristiques de ces journées de Vitrolles était le fait que les méthodes pédagogiques étaient assez particulières et elles prenaient la forme de jeux télévisés. La télévision n'était pas invitée. Les grands gagnants en général détestent la télévision et essayent de s'en prémunir. Ils n'aiment pas que leur image soit diffusée parce que, bon, toujours le goût du secret sur lequel on reviendra. C'était une manière d'essayer de transmettre des notions de finance, des notions juridiques, pas évidentes pour des gens qui n'ont jamais fait de droit, même de loin, qui n'ont jamais touché à l'économie dans la démarche, disons, scientifique, même de loin. C'était une manière de capter leur attention et de essayer d'avoir des méthodes pédagogiques adaptées à cette population. Ce dont on pourrait discuter peut-être précisément, mais dans cette notion aussi d'utiliser le jeu, il y avait, enfin dans cette utilisation du jeu aussi, il y avait bien quand même de la part de des gens de la Française des Jeux une bonne compréhension de ce que représentaient ces séances collectives entre grands gagnants. Ça représentait beaucoup plus qu'une information d'ordre technique, économique, juridique, ou d'ordre psychologique ou sociologique. C'était plus que ça, c'est le fait de les regrouper, donc de mettre ensemble des gens qui partageaient un secret. Et ce partage du secret était extrêmement important. Elle nous a fait penser, toute proportion gardée, au cercle et au club de la grande bourgeoisie. Ces endroits, certes, les clubs de la grande bourgeoisie, sont des endroits où, en principe, on est certain de la personnalité des membres qui sont là, que vous ne connaissez pas tous vraiment personnellement, mais s'il est membre du cercle, en principe, vous pouvez lui faire confiance parce que c'est quelqu'un de votre univers qui partage vos valeurs. Et c'est quelqu'un dont vous êtes proche, puisqu'il est là, et qu'il a été coopté par les membres du cercle à la suite d'une élection, etc. Les grands gagnants du loto, en se retrouvant ensemble, étaient, comme les membres des grands cercles parisiens et lyonnais, il y en a aussi, ils étaient dans des rapports interpersonnel d'une immédiate confiance. Et pour des gens qui vivent dans le secret, qui n'osent pas dire à leurs voisins que s'ils ont pu changer la voiture, c'est parce que, évidemment, elle est un peu grosse maintenant, mais enfin, je gagne bien ma vie, j'ai été augmenté, hein, bon, etc. Ils sont dans le secret, dans le mensonge. Ils se retrouvent avec des gens où ils peuvent échanger, parler en toute quiétude, en toute sérénité, parce que tous sont dans la même situation, tous partagent le même secret, et tous sont solidaires dans le maintien de ce secret qui est pour chacun une condition au moins momentanée de vivre un peu plus tranquillement leur gain. Alors, je terminerai avant de passer la parole à Monique. En disant que ce que je viens de vous dire est à moduler et nuancer en fonction des milieux sociaux. C'est aussi une vérification de la notion d'habitus, par exemple, et de la sociologie de l'action de Bourdieu. Il faut nuancer parce qu'il y a des gagnants qui ne sont pas de milieux très modestes. Il y a des gagnants de milieux moyens, enseignants par exemple. Il y a aussi des gagnants de milieux, disons, supérieurs, qui seraient classés par l'INSEE, profession intellectuelle supérieure, enfin vous savez, vous connaissez un peu la classification de l'INSEE, qui serait dans les professions intellectuelles supérieures et professions enfin, libérales, quelque chose comme ça. La dénomination a changé depuis le temps où nous avons travaillé là-dessus. Et donc, nous avons par exemple un couple qui a vécu très différemment son gain que les gens de milieu populaire dont j'ai parlé au début. Il a vécu très différemment parce que c'était deux cadres supérieurs occupant des positions relativement élevées dans des grands groupes industriels et financiers. Donc, les problèmes de placement, de finances, de rapport aux banques, etc., ce n'était pas des problèmes pour eux, c'était leur vie quotidienne, leur vie de travail quotidien. Donc, là, pas de difficulté. Les relations, ils avaient déjà un bon niveau de vie. Ils avaient déjà un appartement parisien tout à fait confortable et une maison de campagne en Provence. Ils n'ont pas changé beaucoup leur niveau de vie, d'une certaine façon. Les gens de leur milieu, ils ont dit que maintenant ils travaillaient en indépendant et que bon, ils n'avaient plus besoin d'aller au bureau, qu'ils avaient un autre mode de vie. Ils ont expliqué ça comme ça. Ils aimaient beaucoup voyager. Ils en sont à leur troisième ou quatrième tour du monde maintenant. Et leur, je veux dire par là que plus on est déjà en rapport avec le monde de l'argent, plus le gain sera évidemment facile à intégrer au mode de vie que l'on avait. Il y a d'autres dimensions qui facilitent, il y a d'autres dimensions qui facilitent, et peut-être Monique en parlera un peu plus, qui facilitent l'intégration. Mais c'est Monique qui va vous développer ce point. Et merci de votre attention.
Alors, donc, vous avez compris que ce qui nous a intéressé dans cette enquête avec la Française des Jeux, c'est précisément cet accompagnement collectif des grands gagnants. Au fond, il y a... Ça va pour le micro ? Au fond, dans notre société qui est particulièrement individualiste, surtout chez nous, chez les sociologues, dans les classes moyennes intellectuelles, on était très heureux d'entrer en contact avec une institution qui pratiquait un accompagnement collectif de gens qui viennent de gagner plus d'un million d'euros et qui sont massivement quand même statistiques. Des gens modestes, même s'il y a, comme Michel l'a dit, des gens riches, mais la majorité des gagnants que nous avons observés, nous avons bien dû observer la transformation de pauvres en riches. Et cet accompagnement collectif était pour nous très intéressant. Tu as parlé de cellules psychologiques, mais je ne crois pas que c'est ce que tu penses vraiment. C'est-à-dire, je pense, tu sais bien ce que tu as dit. C'est une cellule plutôt sociologique. Enfin, voilà, c'était vraiment un accompagnement collectif. Et c'était important parce que nous, on les a suivis dans des grands restaurants. Enfin, je vais vous faire pâlir d'envie si je vous raconte les conditions d'enquête que nous avons vécues pendant 2 ans. Parce que c'était vraiment c'était des restaurants haut de gamme, de très beaux hôtels. C'était toujours dans des conditions royales. Et avec des gens que nous trouvions sympathiques, puisqu'ils baignaient dans le bonheur, ils venaient de gagner des millions d'euros, jusqu'à 75 millions d'euros, comme Michel l'a dit, et puis tous les deux, on était tous les deux ensemble à faire ça, et ce qui était intéressant, c'était de voir cet accompagnement psychologique, cet apprentissage collectif de la richesse, ensemble, qui permettait, notamment aux gagnants d'origine modeste, de faire face à ce que, avec Pierre Bourdieu, on appelle la violence symbolique. C'est-à-dire quand on n'a pas grandi dans la richesse et que tout d'un coup on se trouve confronté, par exemple, dans un très grand restaurant au Bois de Boulogne, je ne me souviens plus du nom du restaurant, mais peu importe. La Cascade, voilà, c'était très chic, c'était très bien. On arrive tous ensemble, toujours avec un mini-car rouge de la Française des Jeux. On sort tous ensemble du mini-car, on rentre tous ensemble dans le restaurant La Cascade, et là, les gagnants, premier réflexe, ils sortent tous leur téléphone portable et leur appareil photo. Autrement dit, d'emblée, il manifeste collectivement toute la distance qui les sépare de ce lieu. La Française des Jeux faisant très bien les choses de ce point de vue pour ses gagnants, nous réunissait toujours dans un salon à part pour éviter la confrontation avec les autres convives, tellement la différence dans la tenue des corps, dans la façon de se comporter était évidemment différente, puisque nous avions face à face des gens avec des éducations particulièrement contrastées. Et par exemple, un docker, une famille de dockers qui venait de gagner, lors de la remise de leur chèque, la Française des Jeux les invite au Plaza Athénée. Le Plaza Athénée, c'est vraiment le top du top de l'avenue Montaigne. Ils ont une table, la meilleure table du restaurant d'Alain Ducasse. Et le père de famille, d'abord, il s'était très bien habillé parce que c'était un grand jour pour eux. Il venait de gagner 15 millions. Et il n'avait pas mis de veste, et donc ni de cravate. Et donc on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans le restaurant alors qu'ils avaient acheté des beaux blousons, hein, ils étaient fiers, des beaux pulls. Et donc on leur a passé une veste et une cravate. Bon, ils se sentaient déjà un peu... ça leur était pas indifférent. Et puis, le père de famille, quand il rentre au restaurant, il voit à côté de leur table des gens qui sont en train de manger, puis il dit « Bon appétit !» Et il nous raconte « Bah, ils n'ont rien dit, ça a fait un flop !» Voilà, parce que dans ce type de restaurant, on ne se dit pas « Bon appétit !» Voilà. Donc, vous voyez le décalage et cet accompagnement collectif qui, nous l'avons expérimenté, nous devions en faire l'évaluation, et nous en avons fait une évaluation très positive, parce qu'il nous a semblé que c'était une très bonne façon de s'y prendre pour adoucir la violence symbolique et amadouer, au fond, ces gagnants d'origine modeste à leur nouvelle richesse. Puisqu'ils sont riches, il faut bien qu'ils essayent de légitimer cette richesse, de l'apprivoiser, de l'amadouer. Alors, c'est un petit peu ce que je vais développer, comment on légitime la richesse due entièrement au hasard. Alors, d'abord, ce qui nous a frappé avec Michel, c'est le fait qu'ils sont toujours en train d'essayer de se prouver qu'ils sont bien des élus, qu'ils sont bien des élus de la chance. Il faut qu'ils croient véritablement en leur chance, en un destin exceptionnel. Au fond, l'héritier, il a l'héritage, il doit être apte à hériter, et s'il est un bon héritier, il sera capté, il sera hérité par son héritage. Le cadre, lui, ou les sociologues, après tout, nous tous, on aura le mérite. Hein, on se dira, bon, on a fait le NS, on a un bon diplôme. On est méritant et c'est normal que l'État nous donne un diplôme garanti à vie. Et le gagnant, ben, il n'a que la chance, il n'a que cette élection du destin, du hasard, de cet argent qui lui est tombé comme ça dans la poche parce qu'il avait choisi les bons numéros. Et donc il va continuer à jouer. Tous les gagnants, sans aucune exception, mais c'est zéro exception, continuent à jouer et cherchent à gagner en misant plus, en se donnant des petits challenges, enfin voilà. Ils cherchent à être confortés dans leur statut d'élu. Et ils sont très contents quand, par exemple, à la poste, quand ils vont chercher de l'argent, il y a des gens qui les touchent pour essayer d'attraper un petit peu du fluide de la chance, ou qui s'assoient à leur place quand ils quittent le métro ou le bus pour attraper, voilà, un petit peu de fluide de la chance. Alors ensuite, pour légitimer cette richesse due au hasard, ils vont essayer d'intégrer cet avoir dans leur être profond. C'est-à-dire que pour arriver à être bien avec ce gain, ils vont essayer d'être dans une certaine cohérence, cohérence psychologique et cohérence sociologique. Autrement dit, le couple riche dont Michel vous a parlé, vous avez compris, pas de changement véritablement dans leur vie. Avant, ils voyageaient en première classe ou en classe d'affaires en avion parce que leur métier exigeait qu'ils soient toujours disponibles pour être à un coin du monde ou à un autre en fonction des desiderata des actionnaires de leur boîte, du CAC 40. Désormais, ils font le tour du monde pour être tous les deux ensemble et découvrir l'île Maurice, les îles Fidji. Ils continuent à nous envoyer des cartes postales, c'est absolument extraordinaire, et à être parfaitement heureux. Les 7 millions qu'ils ont gagnés, Émilie Frachon et Philippe Braget, je vous le dis pour ceux qui voudraient lire notre livre, puisque c'est des histoires de vie assez approfondies que nous avons faites, voilà, ont complètement intégré les 7 millions d'euros dans une richesse qui était déjà là. Ils étaient déjà assujettis, l'un comme l'autre, à l'ISF, et ils estimaient qu'ils avaient déjà un patrimoine de 5 millions d'euros lorsqu'ils ont gagné les 7 millions d'euros supplémentaires. Et c'est un couple parfaitement heureux qui vit dans le secret, hein, qui ne l'a dit à personne, mais ça ne leur pose pas de problème parce que le gain s'est intégré tout naturellement, de manière cohérente, dans leur classe. Que ce soit dans les classes moyennes, des instituteurs ou des ouvriers, classe moyenne ou classe populaire, à partir du moment où il y a du désir, du rêve ou une passion, le gain prend place relativement facilement dans la vie du gagnant. Par exemple, un couple d'instituteurs fous de musique a gagné 9 millions d'euros à Euromillions et resté dans le secret, mais désormais va au festival de Beyrouth, va au festival, je ne me rappelle plus tous les noms des festivals qui sont connus, extraordinaires. Ils se sont payés une croisière en Grèce, toujours sur le thème de la musique ou de la philosophie. Ils disent à leurs amis, on va faire une croisière musicale. Ça ne les choque pas, puisqu'ils ont toujours été passionnés de musique. Un ouvrier qui a gagné avec un groupe de collègues, ils étaient 8 dans une entreprise de Toulouse, lui c'est un fou de rugby. Il avait déjà des responsabilités nationales dans le rugby. Et bien maintenant, grâce aux 3 millions d'euros qu'il a gagnés, il a arrêté de travailler d'abord, et puis il parcourt le monde pour suivre les finales, les matchs, tout ça. Il est parfaitement heureux. Un autre, l'ouvrier menuisier dont Michel a parlé, était un chasseur absolument passionné, un chasseur dans la Sologne, et c'était un homme de gauche, issu d'une famille ouvrière communiste, et qui avait l'habitude de partager avec ses camarades de classe scolaire et de classe sociale. Eh bien, avec un gain de 27 millions d'euros, son histoire est absolument exemplaire. C'est Patrice Gerbeau, vous verrez, il est dans notre livre, il a même un chapitre qui lui est entièrement consacré, tellement on a été passionné par l'histoire de cet homme. Eh bien, il a acheté aux nobles de la région en Sologne, où il y a des terres cynégétiques tout à fait extraordinaires, alors que lui, il avait l'habitude de chasser sur les terres communales. Il a racheté des terres cynégétiques extraordinaires, et il a amélioré les relais de chasse, il en a fait même presque des châteaux, nous on appelait ça les châteaux des chasseurs, et puis il reçoit, nous avons participé à une journée de chasse, il reçoit 100 camarades de classe et de classe sociale, et il partage, si vous voulez, son gain de manière indirecte. C'est lui qui est propriétaire des terres, il n'a pas donné les terres à ses camarades, mais tout le monde chasse ensemble dans une forme de communisme, de collectivisme, de partage, en tout cas très, très émouvant et très intéressant. D'autres gagnants, par exemple comme Jean Bernard, qui a été construit à la campagne, fils de paysan, et lui-même étant resté à la ferme jusqu'à l'âge de 20 ans, gagne. Et il n'a qu'un seul rêve lorsqu'il gagne en 1988, c'est celui, alors qu'il était cuisinier à l'ONU à Genève, c'est de retrouver la vie de la campagne, la vie de la ferme. et au lieu de profiter de son argent, il place, alors c'était en France, je ne me souviens plus combien il a gagné, mais c'était quand même une très grosse somme, il place cet argent à la banque, et il se retire dans les Alpes, où il a un petit chalet mitoyen avec une autre dame, pour élever à temps plein quelques chèvres, des moutons, des poules, et vivre à temps plein comme un ermite. Il ne touchait même pas à son argent, parce qu'il n'avait aucun besoin. Il vivait entièrement dans l'autoproduction, l'autofourniture, il avait son bois, il tuait le mouton, enfin voilà, il vivait comme ça. Et puis, ce mode de vie lui a attiré des ennuis de la part des autres paysans qui l'ont jalousé, qui ont tué des moutons, enfin bref, au bout d'un moment, la vie lui a été insupportable et il est parti s'installer à Megève. Vous avez sûrement vu ce gagnant parce qu'il passe assez souvent à la télévision, il est assez sympa, il est jovial, il aime bien raconter son histoire, et puis c'est vrai que c'est extraordinaire. Donc il s'installe à Megève en se disant, bah, puisque je suis riche, parce qu'il est resté 7 ans quand même tout seul dans la montagne avec ses poules et ses moutons, et c'était au début des années 90 quand l'argent rapportait à 2 chiffres chaque mois. De sorte qu'au bout de 7 ans, il s'est trouvé carrément richissime. Donc il achète un très beau chalet à Megève et il se dit, bah, puisque je suis riche, je vais aller le mettre au milieu des riches et comme ça personne ne m'emmerdera plus. Je ne ferai plus de jalousie, je serai au milieu de... Et alors ce qui est absolument extraordinaire, c'est que ce chalet qui a 5 chambres, 5 salles de bain, qui est immense et tout ça, quand vous y rentrez, vous avez vraiment l'impression de rentrer dans une ferme. C'est-à-dire qu'il y a des choses de partout, on ne jette rien, son linge à lui sèche comme ça, il y a des géraniums qui ont même pris racine dans le plancher. Moi j'ai failli avoir un accident du travail parce que j'ai voulu me faire belge, je suis toujours, mais enfin disons que j'avais mis des talons hauts pour être à la hauteur. Et mon talon est rentré dans le bois du parquet. Et enfin voilà, donc une ferme, enfin, il a reconstitué son univers à lui dans un univers de gens très riches. Donc si vous voulez, ces exemples sont là pour dire qu'au fond, le gagnant est gagné par son gain à partir du moment où il intègre le gain de manière heureuse en cohérence avec son habitus. Vous voyez, c'est au fond, il y a des valeurs de classe, des valeurs qui vous ont construit, et le gain vous permet de les réaliser. Et vous comprenez bien, et puis je vais conclure là-dessus, vous comprenez bien que ce type de résultat est bien éloigné de ce que les médias présentent des grands gagnants du loto, est bien éloigné de la représentation commune du gagnant qui pète les plombs, qui est un incapable, et vous savez, ma bonne dame, il vaut mieux surtout ne pas gagner au loto, parce que je vous plains, le jour où vous gagnerez, ça va vous rendre malheureuse, le savetier, le financier, la fable de La Fontaine, vous la connaissez tous, vous ne dormirez plus, les raisins sont trop verts, mieux vaut vivre modestement et pauvrement, faire de nécessité vertu en quelque sorte. Ce n'est pas du tout ce que nous montrons, une fois de plus, après avoir montré le bonheur de tous les privilèges dans les grandes familles héritières, nous montrons que dans la plupart des cas, on pourra dans la discussion revenir aux exceptions, hein, quand on présente un topo à l'oral, on fait le bulldozer, on donne l'essentiel des résultats, de la façon de travailler, et puis après, dans la discussion, on pourra nuancer et affiner. Mais c'est ça le résultat principal de notre enquête. C'est, un, cet accompagnement collectif de la Française des Jeux est vraiment une expérience sociologique extrêmement intéressante et très forte. Et deuxièmement, l'argent, dans une société où l'argent est important, eh bien, l'argent fait le bonheur et l'argent peut très bien être intégré en fonction de l'éducation des uns et des autres, en fonction de la position sociale des gagnants, en fonction des valeurs de leur classe sociale. Voilà, merci bien.